Bonjour, c'est Jazz d'ici et d'ailleurs, l'émission pour vous faire découvrir et aimer le jazz, qu'il soit d'ailleurs ou d'ici. Au micro, avec une voix aujourd'hui pas de ténor, mais ni même de baryton, Philippe Desmond, à la régie Daniel Ducasse, à la prise de vue, Philippe Marzard. Alors il y a exactement deux semaines, le 2 mars, en sortant de l'émission consacrée aux chanteuses, j'ai appris la nouvelle du décès d'un des plus grands jazzmen, le saxophoniste et compositeur Wayne Shorter, disparu à 89 ans. On les aime tellement, toutes ces étoiles, qu'on les croit immortelles. Alors pour m'accompagner dans cette émission, j'ai invité un excellent golfeur, mais surtout saxophoniste, qui est un fan de Wayne Shorter, le bordelais Jean-Christophe Jacques. Bonjour Jean-Christophe.
Et bonjour cher Philippe.
Ravi de te recevoir ici, même si c'est pour évoquer la disparition d'un immense musicien. Et puis, il y a un autre musicien qui, dans son répertoire, joue beaucoup de Wayne Shorter. Lui, il est batteur. C'est Roger Biwandou, le parrain de l'émission qui nous a rejoint et qui nous a fait la surprise. Bonjour Roger.
Bonjour tout le monde.
Bon, alors, on vous entendra d'ailleurs jouer tous les deux sur un titre de Wayne, dans le dernier album de Roger. Wayne, dont on va retracer un peu la carrière avant de l'écouter, bien sûr. Alors, il était né en 1933. Il avait vraiment débuté dans le milieu en 1958, après son service militaire, notamment avec Horace Silver, puis dans le big band du trompettiste trop méconnu Maynard Ferguson. Il avait rencontré, d'ailleurs, dans ce big band, il avait rencontré un certain Joe Zawinul. Joe Zawinul, Roger, tu as joué avec lui. Eh oui, tout se rejoint. En 1959, Wayne rejoint les Jazz Messengers d'Art Blakey, pour qui il compose beaucoup, et il commence parallèlement une carrière solo avec plusieurs albums. En 1964, il rejoint le second quintet de Miles Davis, un quintet incroyable, avec Miles, bien sûr, Ron Carter à la basse, Tony Williams à la batterie, Herbie Hancock au piano, vous voyez l'affiche extraordinaire. En 1970, il quitte le quintet de Miles Davis et forme en 1971 Weather Report avec Joe Zawinul et Miroslav Vitus. Il en sera jusqu'en 1986. Ça a bien duré. Entre-temps, on l'entendra avec Johnny Mitchell, Santana, Milton Nascimento, Steely Dan et bien d'autres. Il poursuit parallèlement une carrière de leader. En 96, il a un gros coup dur, il perd sa femme et donc je crois que c'est sa fille, mais c'est sa nièce, ça m'a dit Jean-Christophe, dans le crash aérien de la TWA. Et dans les années 2000, après avoir enregistré le 1 plus 1 avec Herbie Hancock, il renaît en quartet avec Danilo Perez, John Patitucci et Brian Blade. Alors, Jean-Christophe, c'est une de tes idoles?
C'est une de mes idoles. Alors c'est compliqué de parler de Wayne Shorter, parce que, enfin en tout cas ce qui me concerne, parce que c'est pas forcément mon saxophoniste préféré.
Oui.
Par contre, pour moi c'est un des plus grands musiciens de jazz de l'histoire. J'ai toujours eu du mal à le considérer comme un saxophoniste. Pour moi il est musicien, point final. C'est quelqu'un qui pour moi est un peu une espèce d'impressionniste. Quand il joue, parce que c'est quelqu'un qui fonctionne par petites touches. C'est complètement l'anti-saxophone-héros, saxophoniste-héros qui va jouer des grands solos hyper techniques, même s'il savait le faire.
Oui, oui.
Mais Shorter, pour moi, c'est d'abord un son, un musicien. Et pour moi, c'est un compositeur impressionniste du jazz et toujours dans le respect de la mélodie. Et ça, c'est le plus important.
Il a laissé des titres impérissables. Alors, on va retracer un peu sa carrière en l'écoutant à ses débuts en 1959 avec les Jazz Messengers d'Art Blakey. À la trompette, Lee Morgan. Il y avait Bobby Timmons au piano, Jimmy Merritt à la contrebasse. Et puis, lui, à ce moment-là, il est au sax ténor. On verra qu'il va évoluer dans sa carrière. Alors, sur l'album The Freedom Rider, on écoute un extrait d'El Toro.
We'll be right back.
Voilà, donc c'était Wayne Shorter dans un extrait d'El Toro, c'était la partie dans laquelle il jouait. Après, c'est Lee Morgan qui prend le relais, mais aujourd'hui, on est là pour parler de Wayne. Donc ça, c'était ses débuts, il était tout jeune, il était au sax ténor.
Sax ténor, ouais.
Voilà. Et parallèlement au Jazz Messenger, il entame une carrière de solo, et notamment avec l'album Introducing Wayne Shorter. Alors ça, c'est l'année d'après, je crois. Alors, il n'a pas pris n'importe qui. Il y avait toujours Lee Morgan à la trompette, Wynton Kelly au piano, Paul Chambers à la contrebasse, et Jimmy Cobb à la batterie. Donc là encore, là on est dans les premières années là, de Wayne, toujours au sax ténor. On écoute Harry's Last Stand. We'll be right back. Harry's Last Stand, Wayne Shorter. Donc je suis avec Jean-Christophe Jacques, saxophoniste, et Roger Biwandou, deux musiciens qui pillent régulièrement le répertoire de Wayne Shorter, et pour cause, parce qu'il le restitue parfaitement. Un commentaire là-dessus, Jean-Christophe ?
Sur
ce qu'on vient d'entendre,
sur ce qu'on vient d'entendre, le son. Oui, sur le son, ben là on est vraiment clairement dans la période des Jazz Messengers. On sent vraiment encore sur ce premier album là, cette patte là. Moi j'avoue que je suis un peu plus intéressé dans cette période-là, par les albums qu'il a sortis par la suite. Quoi.
On va y arriver.
Je sais qu'on va y arriver, je sais que tu vas nous gâter, mais honnêtement, voilà, on est sur quelque chose encore de je qualifierais de naissance. Tout ce qu'il écrit est très intéressant et très propre et voilà, très en place. Mais on sent que c'est le petit Wayne qui s'est nourri un peu de Coltrane et qui est en train un peu de grandir. Mais
oui, déjà, il n'a pas 30 ans encore.
Et il n'a pas 30 ans, non, mais c'est déjà extrêmement impressionnant. Et à l'époque, il jouait vraiment du saxophone ténor, on va dire, de manière, entre guillemets, un peu plus virtuose. C'est-à-dire, il était vraiment dans le standard de ce qui se faisait dans cette époque-là, au niveau du jeu du sax ténor. Ouais.
Alors, il est remarqué en 1964 par un certain Miles Davis. Il avait déjà un peu essayé de frapper à la porte, là, mais il avait déjà ce qu'il fallait, Miles. Et donc, pour le second quintet de Miles Davis, comme on dit, eh bien, il retrouve Tony Williams, Herbie Hancock et Ron Carter. Alors, tiens, une petite remarque personnelle, j'en ai vu 4 sur les 5 dans ma vie. Le seul que je n'ai jamais vu, c'est Tony Williams, et pourtant, j'aurais bien aimé. Alors là, c'est une période importante. Il devient le compositeur principal pour les albums de Miles. Ils sont signés Miles Davis, mais c'est Wayne qui est quand même le plus important compositeur. Alors les albums, ben, c'est pas n'importe lesquels. Dans EST, Miles, dans Sorcerer, Nefertiti, et même dans le Water Babies, qui n'est sorti qu'en 1976, mais qui avait été enregistré à l'époque, Miles in the Sky, Les Filles du Kilimanjaro, In a Silent Way, Beaches Brew. Donc, il a écrit de gros chapitres de Miles.
Oui, on peut dire ça. Oui, vraiment, ben, c'est vraiment une période. Et ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que la carrière de Miles, à ce moment-là, elle est en perpétuelle évolution grâce à cette musique, parce que finalement, il finit par passer du hard bop, enfin d'un jazz, on va dire, entre guillemets, plus acoustique, et progressivement, on va vers l'électrique, et derrière, Wayne Shorter sait toujours s'adapter, sait toujours écrire ce qui convenait pour la musique de Miles Davis, qui n'était pas... comment dire, le client le plus facile, quoi.
Non, c'était pas le client ni le personnage le plus facile. Il avait pas de bon caractère, paraît-il. Miles Davis, d'ailleurs, vous l'avez, avec Postimage, vous l'avez croisé.
Alors, pas moi, parce que à l'époque, j'étais encore très très jeune.
Oui.
Et pas encore forcément, même dans le monde de la musique. Postimage, avec qui je joue depuis maintenant 1998, a fait son premier concert, me semble-t-il, ou son deuxième concert. C'était la première partie de Miles Davis.
À Andernos.
Et oui. Voilà. Et quel regret de ne pas avoir pu y participer. Mais en 87, j'avais 16 ans, je crois. J'aurais pu si j'avais été un peu précoce. Mais...
Alors, on va l'écouter. On va écouter Miles et surtout Wayne Shorter. Sur l'album Nefertiti. Alors, c'est sorti en 1968. J'en vois un à ma gauche qui était pas né encore, là. C'était, qui me tire la langue. Toujours au sax ténor. Et ça s'appelle Pinocchio. Thank you. Pinocchio, on sentait le nez qui s'allongeait à la fin du morceau. Donc je suis avec Jean-Christophe Jacques et Roger Bibandou, on parle de la carrière de, et on rend hommage à Wayne Shorter. À ce propos, sur Arte, la chaîne a ressorti un documentaire sur lui qui est déjà disponible en ligne, donc je vais ce soir, je m'en suis rendu compte aujourd'hui, ce soir, je vais aller regarder ça et ne le manquez pas. Très important ce quintet de Miles Davis.
Ah oui, 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 bah oui, 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 vraiment capital. Et puis, comme je disais tout à l'heure, vraiment, c'est vraiment dans ce groupe, déjà, bon, par l'addition des personnalités, des musiciens qui étaient là, qui étaient à l'époque de jeunes musiciens, certes, mais quand même, il y avait, comme on dit un peu vulgairement, du niveau, mais pas que. C'est-à-dire que musicalement, c'est, on va dire, l'exercice de style du quintet, quoi. Je veux dire, la référence du quintet, en règle générale, on va penser directement à ce quintet.
Et bien sûr.
Voilà. Alors, pour, après les autres générations, on peut aussi penser au quintet de Wynton, dont on parle très souvent, Wynton Marsalis,
et oui,
avec mon collègue Roger. Nous sommes tous les deux très, très fans de sa musique. Mais le quintet de Miles est véritablement une référence.
Et pourtant, ça ne lui suffisait pas, puisque en 1966, donc pendant cette période du quintet de Miles Davis, il recommence une carrière en solo, en leader, et là, en quartet. Bon, évidemment, on retrouve quand même Herbie Hancock avec lui, au piano, Reggie Workman à la basse, et Joe Chambers à la batterie. Donc là aussi, donc, pour un album qui s'appelle Adam's Apple, la pomme d'Adam, qui contient Footprints.
Ouais.
Et Footprints, ça va devenir effectivement quelque chose d'extraordinaire, un grand standard, et que vous avez repris avec Roger Bibandou dans le dernier album qui s'appelle Straight Outta Palmer.
Moi, je peux me permettre de le dire, dans l'excellent dernier album de Roger Bibandou.
Et oui, on l'a écouté ici, d'ailleurs, dans son intégralité.
Et la reprise et l'arrangement est vraiment extrêmement plaisant à jouer.
Quelques mots, Roger, là, sur ce titre, la Footprints. Alors, qui c'est qu'il y avait déjà? Qui c'est qui jouait?
Sur Footprints, c'est le mien. Alors, c'est mon Bordeaux quintet, donc avec Jean-Christophe, qui est au saxophone ténor, Michael Chevalier, qui est à la trompette. Nous avons le révérend Hervé Saint-Guiron, qui est au piano, et Nolwenn Lesour à la contrebasse. Bien sûr, je suis à la batterie. Je crois que c'est Francis Fontes qui m'a soumis cet arrangement, et de là qu'on a réarrangé. Les gars ont bien réharmonisé le tout. Tout est bien solide, tout est parfait. Et je dois ajouter que c'est mon quatrième album, et que sur trois de mes quatre albums, il y a toujours une piste à Wayne Shorter, même si elle est cachée. J'ai enregistré toujours un morceau de Wayne Shorter sur au moins trois albums sur quatre.
Alors on écoute la version donc du Bordeaux Quintet de Roger Bibandou de Footprints. Thank you. Footprints de Wayne Shorter. Là, on vient d'écouter la version de Roger Biwando et du Bordeaux Quintet, dont j'ai deux éminents représentants à mes côtés, Roger lui-même et Jean-Christophe Jacques, saxophoniste, justement, grand spécialiste aujourd'hui pour nous parler de son collègue ou de son confrère, Wayne Shorter. On va passer maintenant à une autre période de Wayne Shorter, c'est celle de l'album Native Dancer. Quelques mots là sur celui-ci, cet album-là, il est avec Milton Nascimento.
Là, pour être honnête, cette période-là n'est pas celle que j'ai préférée dans la musique de Wayne. C'est-à-dire que c'est une période un petit peu transitoire finalement, même si l'album est vraiment fantastique, mais j'avoue que je ne me suis pas... trop penché sur cette période-là. C'était pas une période qui m'a vraiment intéressé. Néanmoins, je pense que lui, ça lui a permis de faire la transition entre c'est un petit peu cette fin avec le quintet et puis notamment suite à l'album Beaches Brew de Miles Davis qui était vraiment armé jazz rock. Ça lui a permis de faire cette transition avant d'entamer ou en tout cas en entamant sa période avec Weather Report où là vraiment il a été, complètement dans la ligne de ce qu'on peut appeler le jazz rock ou ce terme m'ennuie profondément, le jazz rock.
Et pourtant,
jazz...
c'était comme ça qu'on l'appelait. C'est connoté
dans
maintenant.
Un jazz plus c'est modal, plus électrique, plus mélodique ou pas, ou peu importe. Mais voilà. Donc, ouais, j'avoue que cette période-là n'est pas celle que je préfère, et pas celle que je connais le mieux de Wayne Shorter.
Alors, pourtant, ce titre-là, je dirais que même les gens qui ne sont pas spécialistes de jazz le connaissent.
Ah oui, bien sûr.
La Belle et la Bête, The Beauty and the Beast. Et là, il est passé au sax soprano. Et vous allez reconnaître cette chanson qui avait été écrite par Claude Nougaro sur cette musique, qui s'appelait Comme une piaf. Comme une piaf au masculin, je voudrais pouvoir chanter le bottin et vous remuer les intestins. Donc ça figurait sur l'album Native Dancer, sorti en 1975, avec Milton Nascimento, le Brésilien. Sur le titre, on retrouve Herbie Hancock, quand même, Jay Redden à la basse, Erto Moreira aux percussions et Wagner Tissot, que je ne connaissais pas, au piano électrique. Beauty and the Beast. Thank you. attention, attention. Hop, voilà. Et oui, donc vous avez reconnu la reprise qu'en avait fait Claude Nougaro. Beauty and the Beast. Roger, tu veux me dire quelque chose ?
Absolument pas, tout va bien, je suis content d'être parmi vous, mes amis.
Eh bien, on est très content avec Jean-Christophe aussi. On est là pour parler de Wayne Shorter. Voilà, ben, il avait 89 ans, il est parti, mais il sera toujours là avec nous, avec sa musique. Alors, pour cet hommage justement à Wayne, j'ai choisi d'écouter une chanteuse, qui est une habituée un peu de l'émission, pour sa version d'un titre qu'elle a mis en parole. Elle a sorti un album, c'est Cécile Elrechia, qui s'appelle Play Blue, dans lequel elle a repris beaucoup de standards et de grands standards. Il y a Drifting, il y a Moaning, The Sidewinder, enfin vraiment des choses très, 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 très jouées, très, très connues. Et elle a créé des paroles pour chacun des morceaux. Des paroles qui sont en anglais, certes. Et là, elle est allée chercher un extrait d'un morceau de Wayne Shorter avec les Jazz Messenger sur l'album Like Someone in Love, comme quelqu'un d'amoureux. C'était en 1960. C'est sur l'album Play Blue et on écoute Sleeping Dancer Sleep On. Cécile Elrechia qui reprenait un titre de Wayne Shorter, Sleeping Dancer Sleep On, c'était en 1960 que ce morceau avait été créé avec les Jazz Messengers. On est là pour parler de Wayne Shorter, et comment parler de Wayne Shorter sans évoquer Weather Report? C'est comme ça que je l'ai découvert, personnellement.
Oui, alors, moi, c'était pas mon cas. Moi, j'ai découvert Weather Report finalement après avoir écouté les premiers albums de Wayne Shorter. Je sais pas quoi te dire, Philippe. Je sais pas quoi te dire. Weather Report, c'est tellement un monument. Ça a inspiré toute une génération de groupes dont je fais encore partie.
Et Post-Image.
Post-Image, notamment. Mais on peut parler des Sixon, on peut parler des Ultramarines, on peut parler de Black Market.
Black Market,
on peut parler de. Voilà, Weather Report, c'est j'invite moi les gens qui ne connaissent pas cette musique vraiment à l'écouter, et je suis sûr que quelle que soit la période de Wayne Shorter, de Weather Report, quelle que soit la période qu'ils écouteront, ils trouveront toujours quelque chose qui les attirera. Je veux dire, il y a forcément c'est un groupe aussi qui a contribué, qui a été parfois assez loin dans l'expérimentation, surtout au début dans les années 70, mais qui a quand même contribué beaucoup à rendre le jazz un peu plus grand public.
Et oui.
Et ça, c'est hyper important, quoi. Je, voilà.
Et moi, je l'ai découvert, je crois que ça avait 19 ans. C'est Pierre, mon ami, que vous connaissiez tous les deux, ouais. qui m'avait offert un album. Et on les a vus en 1976. J'en parle toujours, je radote hein, dans ce magnifique concert de Bayonne où il y avait le même soir... Billy Cobham, George Duke, il y avait les Herbie Hancock et les Headhunters. Non, il y avait aussi McLaughlin avec Shakti.
Oh,
il y avait Larry Coryell. Et pour terminer, on n'était pas rassasiés. On avait fini avec Weather Report. Là,
la ville de Bayonne avait des budgets à l'époque, alors.
Finalement. Et oui, donc il y avait. Non, c'était pas Jazz Rempart, c'était dans les arènes de Bayonne, d'ailleurs. On était parti à moto là-bas avec des tentes de camping qui se montaient en trois quarts d'heure là, à l'époque. Et voilà. Et donc, évidemment, il y avait Wayne Shorter, il y avait Joe Zawinul qui était là, Jaco Pastorius, Alex Acuña à la batterie, Manolo Badrena aux percussions. Et donc, on les retrouve là les mêmes sur l'album donc Heavy Weather. Et on écoute au soprano Wayne Shorter dans sa propre composition que vous avez joué déjà, messieurs.
Oui.
Palladium. Thank you. Et Palladium, je dois dire qu'il y a une certaine émotion dans ce studio à l'écoute de ce morceau, tellement c'est beau. Hein, c'est oui. La beauté pure. Ouais, alors, rectification, évidemment, il n'était pas au soprano, hein, il était au sax ténor.
Oui, bon, c'est pas grave.
Ça reste du saxophone.
Avec un peu d'hélium.
Ça reste du bois.
Ça reste du bois. Mais si je peux parler juste un peu de.
Mais tu es là pour ça.
De cette période et ce passage. Moi je sais que y a, ça marque. Tout à l'heure, je parlais d'une espèce de césure, de cassure, même dans son style de jeu. Et là, au ténor, on sent qu'il est beaucoup moins dans le flot de notes. Il va plus essayer de jouer du son. Il est beaucoup touches, dans la mélodie. Et je crois que c'est l'apport du soprano qui lui a amené ça. Le soprano, pour un saxophoniste ténor, j'en parle un peu en connaissance de cause parce que c'est un instrument que j'adore. Pour moi, c'est l'extension et ça amène tout le lyrisme qu'on ne peut pas forcément avoir au ténor.
Oui.
Et les deux s'auto-alimentent en permanence. Jouer du soprano va ramener du lyrisme sur le ténor et la technique du ténor va peser sur le soprano. C'est vraiment, pour moi, l'alter ego d'un saxophoniste ténor. Il faut vraiment jouer les deux. Enfin, je le conseille à tous les gens qui démarrent le sax ténor. Jouez du soprano, s'il vous plaît.
Quel plaisir d'avoir des spécialistes comme ça qui vous parlent si bien de leur instrument. Bon, alors on va passer un titre pour finir, mais quelques mots déjà sur des concerts. Il y a deux concerts que je voudrais signaler. Alors donc là on est le 16 je crois, hein, si je me trompe pas, on est le 16 mars, c'est l'émission sera rediffusée la semaine prochaine, donc ces annonces ne seront plus valables. Samedi soir vous avez au Rocher de Palmer, je crois que c'est gratuit même, c'est le concert de Crawfish Valette et ils seront avec des cordes, avec trois violoncelles. Ça c'est, on les a vus travailler, on les a vus enregistrer l'album, et je dois dire que cette musique ou ces musiques de Nouvelle-Orléans, parce que c'est pas du Nouvelle-Orléans, ce sont les musiques de Nouvelle-Orléans, des Caraïbes et de partout, qui sont ensuite boisées avec ces trois violoncelles, c'est magnifique. Et surprise, c'était pas fait exprès quand j'ai invité Jean-Christophe à cette émission. Eh bien, on retrouve Postimage qui sera en concert samedi soir au Vox à Saint-Christoli de Blaye, dans le nord Gironde. Et avec toute la troupe, hein, donc qui c'est qui est. Alors, rappelle-moi les noms.
Alors donc, bien évidemment, avec Dany Marcombe, hein, la basse, le créateur du groupe, avec Patricio Lamera à la guitare, Eric Perez à la batterie, Frédéric Fegas au clavier, moi au saxophone, et on aura surtout le grand plaisir d'avoir le retour de notre buse national, de Freddy Buzon, le son, le Miles Bordelais, je sais pas quoi dire, ça me fait tellement plaisir de repartager un
notre
peu la
père
scène.
À nous.
Ouais, voilà, on a toujours... Vous savez, si je peux juste relater une petite anecdote, on a joué donc au Rocher il y a un peu de temps avec le quintet de Roger Biwandou. Et il y a un morceau où intervient sur l'album Freddy à la trompette Boucher, 30 secondes. Et vous savez, il est juste arrivé au studio. C'est à moi ? Oui ? Pum, 30 secondes. C'était plié. Et quand on a joué, ce moment-là, c'est Régis Lahonta qui l'a joué merveilleusement. Mais on était tous très, très, je sais pas, en train de penser à lui. On pensait à Miles, on pensait à Freddy, voilà. Venez samedi, venez nous voir aussi. Rejouer avec Postimage, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. C'est important, l'amitié.
J'ai plus soin.
Alors, donc, on va écouter, pour finir, un titre qui est devenu un des hymnes aussi de Wayne Shorter, il le joue ici avec Freddy Hubbard à la trompette, Ron Carter à la contrebasse, Herbie Hancock au piano, vous rendez compte, ces affiches chaque fois, et il y avait Elvin Jones à la batterie. On écoute tout simplement, en se disant au revoir, Speak No Evil. Merci Jean-Christophe.
Merci beaucoup Philippe.
Merci Roger de nous avoir fait la surprise. Et on se dit, nous, dans 15 jours. Alors, dans 15 jours, on parlera de la contrebasse dans le jazz et je serai avec un certain Olivier Gâteau.
Thank you.